Laudetur Jesus Christus.
Les bombardements israéliens continuent sur la bande de Gaza. L'enclave palestinienne est totalement bouclée. L'aide humanitaire ne rentre plus. Et le Premier ministre israélien l'annonce, ceci n'est que le début. Moscou dicte ses conditions. Washington peine à se faire entendre et Kiev n'a pas confiance. C'est ce qui ressort de la très attendue conversation entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Parallèlement, les combats continuent sur le terrain ukrainien. Un contexte international qui a relancé la course à l'armement. Nous l'entendrons, l'Allemagne n'y échappe pas. Et dans ce journal, nous irons également sur le continent africain. La présidentielle se prépare en Côte d'Ivoire, elle aura lieu en octobre. Et puis à Goma, en RDC, les négociations pour la paix sont dans l'impasse. Mais l'évêque de Goma aspire à la réconciliation de la RDC.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle fois, la bande de Gaza se réveille sous les bombardements israéliens ce matin sur tout le territoire totalement bouclé par Israël. Après les plus de 400 personnes tuées hier, la défense civile parle de 13 nouvelles victimes ce matin. Les agences de l'ONU ainsi que la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, mais également la Caritas, demandent un cessez-le-feu immédiat et l'entrée de l'aide humanitaire à Jérusalem.
Israël poursuit ses bombardements dans l'ensemble de la bande de Gaza, visant les familles qui s'abritent sous des tentes ou dans des bâtiments. Les missiles ont ainsi visé des tentes à Al-Mawasi, près de la ville de Khan Younes, déclenchant des incendies. Les bombardements ont également frappé la ville de Rafah, cible également de tirs de l'armée israélienne postée le long de la ligne frontalière avec l'Égypte, dont elle aurait dû se retirer à la fin de la première phase du cessez-le-feu. Les bombardements ont également fait des morts et des blessés dans les camps de réfugiés du centre du territoire ainsi que dans la ville de Gaza. Les hôpitaux fonctionnant encore sont incapables de prendre en charge les blessés que les médecins ne peuvent soigner correctement faute d'équipements et de médicaments, ce qui oblige les chirurgiens à opérer sans anesthésie. Les équipes médicales palestiniennes et étrangères, dont la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ne cessent d'appeler au cessez-le-feu immédiat et à l'ouverture de tous les points de passage pour laisser entrer l'aide humanitaire. Les population étant à nouveau affamée et assoiffée. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Et politiquement, tout montre que cette nouvelle phase de bombardement sera longue. Le Premier ministre israélien avertit, ce n'est que le début. Il mise sur la pression militaire pour libérer les otages. Sur les 251 personnes enlevées durant l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre 2023, 58 restent retenues dans l'enclave palestinienne, dont 34 sont déclarées mortes par l'armée israélienne. Et un autre signal négatif pour un apaisement du conflit. Le retour d'Itamar Ben-Gvir, d'extrême droite au poste de ministre de la Sécurité nationale. Il avait démissionné le 19 janvier en opposition avec l'accord de trêve avec le Hamas. C'était un coup de fil très attendu, celui passé hier entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Symbole du rapprochement spectaculaire entre Washington et Moscou depuis le début de l'année. Les deux présidents se sont donc entretenus durant 2 heures hier après-midi, et malgré quelques annonces symboliques, on semble bien loin d'une solution de paix en Ukraine, Olivier Bonnel.
Oui Marine, le téléphone rouge s'est réactivé hier, conformément aux vœux de Donald Trump, mais le cessez-le-feu complet que souhaite Washington n'est pas encore pour demain, tant s'en faut. Seul point d'accord annoncé hier, Vladimir Poutine a accepté d'interrompre pour 30 jours les frappes visant les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Il est également question que le cessez-le-feu concerne les opérations en mer Noire, mais les deux présidents ne se sont pas engagés dans un cessez-le-feu total voulu par la Maison-Blanche et auquel Kiev avait donné son accord. Car le président russe a posé ses conditions. Vladimir Poutine réclame en effet l'arrêt complet de l'aide militaire occidentale à Kiev, ainsi que le partage du renseignement aux Ukrainiens, des prétentions qui signifieraient précipiter une capitulation de l'Ukraine. Depuis Berlin, hier, Emmanuel Macron et Olaf Scholz sont d'ailleurs assurés de la continuité de leur soutien aux Ukrainiens. Les négociations russo-ukrainiennes vont commencer dimanche prochain à Jeddah, en Arabie Saoudite. L'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, après le coup de fil d'hier, a expliqué avoir bon espoir que les Ukrainiens accepteront ce cessez-le-feu, notamment la fin des frappes sur les infrastructures. Mais ce dernier point, Marine, est plus que fragile. Cette nuit encore, des frappes russes ont visé un hôpital à Soumy, dans le nord de l'Ukraine. Frappes qui détruisent notre énergie, nos infrastructures et la vie normale des Ukrainiens, a déploré Volodymyr Zelensky. Le fait que cette nuit n'ait pas été une exception montre que nous devons continuer à faire pression sur la Russie pour le bien de la paix, a expliqué le président ukrainien.
Merci Olivier Bonnel. Et justement, après cette nouvelle frappe de la Russie en Ukraine, Berlin dénonce, je cite, le jeu de Vladimir Poutine ce matin. L'Allemagne qui se lance aussi dans la course à l'armement. Le Bundestag approuve une série de réformes constitutionnelles dans le but d'autoriser des investissements massifs dans la défense et dans les infrastructures civiles. Une petite révolution pour un pays connu pour sa rigueur budgétaire. À Berlin, Delphine Herbolier.
L'adjectif « historique » est souvent utilisé de manière exagérée, mais c'est bien un vote historique qui a eu lieu à Berlin. Les députés fédéraux ont approuvé 3 réformes constitutionnelles qui marquent un tournant dans un pays où, par tradition, on refuse de recourir aux dettes pour financer les investissements. Les élus ont brisé 3 tabous. Ils ont modifié la sacro-sainte règle du frein à la dette afin de permettre des investissements records dans la défense. Ils ont aussi autorisé les autorités régionales à s'endetter un peu. Enfin, ils ont approuvé un fonds spécial de 500 milliards d'euros sur 12 ans pour investir dans les infrastructures, écoles, routes, ferroviaires, numériques, énergie ou encore climat. Au total, c'est un paquet d'investissements XXL qui va pouvoir être mis en œuvre. Ces réformes sont une petite révolution pour la première économie d'Europe. Les changements géopolitiques, la menace que représente la Russie et surtout l'abandon des Européens par l'administration américaine ont fait l'effet d'un électrochoc. Les milieux économiques se réjouissaient ce mardi de ces annonces. La bourse de Francfort s'est envolée, notamment les valeurs des entreprises d'armement. Berlin, Delphine Arbolier pour Radio Vatican.
Le musellement de l'opposition s'accroît en Turquie. Ce matin, le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, a été interpellé. Des centaines de policiers sont arrivés à sa porte, dit-il. Les médias locaux parlent d'une enquête pour corruption. Le maire d'Istanbul est le plus sérieux rival du président Recep Tayyip Erdogan. Il doit être officiellement désigné candidat de son parti dimanche pour la présidentielle en Turquie. Elle aura lieu en 2028. Direction maintenant la Côte d'Ivoire. La liste électorale devant servir pour l'élection présidentielle d'octobre prochain a été publiée en début de semaine. Après une opération de révision, et Laurent Gbagbo est à nouveau l'un des grands absents de cette liste. Comme lors de la précédente révision, son parti, le PPACI, s'est offusqué de cette absence tout en exigeant que son leader soit inscrit. À Abidjan, Mohamed Lamine.
Radié de la liste électorale comme en 2023, Laurent Gbagbo ne peut en l'état actuel concourir lors de la présidentielle d'octobre prochain, alors que son parti l'a désigné comme candidat. Le PPACI, par la voix de son président exécutif, condamne sans réserve cette exclusion. Sous le coup d'une condamnation, l'ancien président ivoirien a été gracié, mais pas amnistié, comme l'ont été d'autres opposants. Il reste donc déchu de ses droits civiques. Pour Sébastien Danojeje, c'est Alassane Ouattara qui ne veut pas que Laurent Gbagbo soit candidat pour avoir pris, je cite, « une loi d'amnistie sélective ». Malgré cette situation qu'il qualifie d'extrême gravité, Sébastien Danojeje maintient que Laurent Gbagbo demeure le seul et unique candidat du PPACI à la présidentielle prévue dans 7 mois. « Nous allons exiger l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale », a-t-il répété ce mardi au cours d'une conférence de presse. Par ailleurs, Guillaume Soro et Charles Blegoudé sont eux aussi radiés de la liste électorale en raison de la perte de leurs droits civiques suite à des condamnations. Comme Laurent Gbagbo, ces deux hommes politiques ne peuvent pas en l'état participer directement à la présidentielle d'octobre 2025. Abidjan, Mohamed Lamine pour Radio Vatican.
L'état d'urgence déclaré dans l'état de Rivers sur la côte du Nigeria, une région riche en pétrole déchirée depuis plus d'un an par un conflit politique entre l'actuel gouverneur et son prédécesseur. Un état d'urgence annoncé par le président Bola Ahmed Tinubu à la télévision nationale. Il annonce aussi nommer un vice-amiral administrateur chargé de diriger les affaires de l'état en attendant qu'une solution politique soit trouvée. Et puis après le Niger et le Burkina Faso, c'est au tour du du Mali de quitter l'Organisation internationale de la francophonie. Ces trois pays étaient parmi les premiers membres de l'OIF, fondée en 1970 à Niamey, dont l'objectif était de rapprocher les peuples via une langue commune. Mais selon l'AES, l'Alliance des États du Sahel, l'Organisation internationale de la francophonie est, je cite, un instrument politique téléguidé qui méprise la souveraineté de ces pays. La situation sécuritaire et humanitaire à Goma et sa région empire depuis l'entrée du groupe M23 dans la grande ville du Nord Kivu. Nous sommes bien sûr en RDC. Les tueries, les enlèvements et les pillages sont devenus monnaie courante dans cette région de la République démocratique du Congo. Hier, une rencontre surprise a eu lieu à Doha, au Qatar, entre le président congolais et le président rwandais. Le besoin d'un cessez-le-feu a été évoqué, mais le contenu des échanges reste privé. Du côté de l'Angola, là où devaient se tenir des discussions entre les délégations congolaises et du M23. Ces discussions semblent dans l'impasse. C'est ce que déplore l'évêque de Goma dans un entretien accordé à Radio Vatican au lendemain de l'annonce du groupe armé M23 de ne pas participer à ces négociations prévues à Luanda. L'évêque de Goma, Monseigneur Willy Gumbi, continue pourtant de prôner le dialogue. On l'écoute.
La situation, en tout cas, n'a pas beaucoup changé. Bon, la seule chose, c'est que bon, la guerre n'est plus à Goma. La guerre s'est déplacée vers les autres zones du diocèse. Aujourd'hui, par exemple, nous avons une paroisse à 250 km d'ici, à Walikale. Elle est menacée par l'entrée des troupes du M23 AFC. Ces jours-ci, alors, les gens sont dans la débandade, dans la psychose. Je viens de parler avec le curé ce matin à ce sujet. Donc, la ville de Goma, pour le moment, au moins, il n'y a pas la guerre, mais les questions sécuritaires restent toujours les mêmes avec les enlèvements, les tueries. Les gens ne dorment pas bien la nuit puisqu'il y a des bandits armés qui entrent dans les maisons pour rançonner les gens. Ils prennent tout ce qu'ils peuvent prendre, argent, quand il y en a, ou comme téléphone. Enfin, en tout cas, la situation sécuritaire n'est pas encore beaucoup améliorée.
À partir de ce mardi, devraient reprendre les négociations entre la RDC et le M23 à Luanda, mais qui a été annulée en dernière minute par le retrait de ce dernier. Pensez-vous, Monseigneur Willy, que ce processus de dialogue aurait pu aider ou aiderait tant soit peu à revenir à une situation plus paisible?
Pour nous, le carême, comme je l'ai dit, c'est un temps de conversion, mais pour nous, le prenons comme un temps d'espérance. En fait, nous croyons toujours aux promesses du Seigneur, mais aussi à tous ceux qui nous donnent l'espoir de ramener la paix, de ramener l'unité dans le pays, dans le Congo, puisque nous sommes divisés pour le moment. Et ce dialogue est pour nous le facteur d'unité qui puisse aider à résoudre les problèmes que nous connaissons aujourd'hui dans notre vie. C'est pourquoi beaucoup de gens, en tout cas, ont été déçus d'apprendre que bon, le dialogue de Luanda ne peut plus avoir lieu aujourd'hui à cause du retrait du M23. Mais nous continuons toujours à espérer que ce dialogue aura lieu, puisque nous ne croyons pas tellement à la solution militaire. Nous ne voyons pas cette solution militaire, comment elle peut se réaliser. Et puis, on a toujours peur. Si on a connu la guerre, on voit tout ce que ça a détruit, tous les morts qu'il y a eu. On voit maintenant que la vie devient très, très difficile. Donc, les gens vraiment ne veulent pas de la guerre. Et ils aimeraient qu'on arrive à une solution pacifique, qu'on arrive au dialogue, que Kinshasa et Goma puissent entrer en dialogue afin que nous puissions retrouver le chemin de la paix, le chemin de l'unité du pays.
Comment les chrétiens de Goma vivent-ils leur foi et comment ils se sentent dans de telles circonstances?
Je dois dire à tous nos frères et sœurs qui nous suivent que la population de Goma actuellement souffre. C'est depuis longtemps qu'on souffre, mais actuellement on souffre encore davantage à cause de la crise économique, mais aussi la crise humanitaire. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue, même ceux qui sont rentrés chez eux, ils sont encore dehors puisqu'ils ont trouvé les maisons détruites. Parfois, d'autres personnes occupent les maisons. Nous souffrons beaucoup, mais nous gardons la foi, nous gardons l'espérance. Nous savons qu'après le carême arrive la Pâque. Et ça, c'est notre grande espérance. Et nous demandons à tous nos frères et sœurs qu'ils puissent nous soutenir par leurs prières, mais aussi par tous les moyens possibles, matériels et financiers. Et nous demanderons à tous ceux qui ont un pouvoir, quelque part politique, de peser pour que le dialogue entre le gouvernement de Kinshasa et le mouvement de M23 et tous les politiques congolais qui sont impliqués de près ou de loin dans cette crise de guerre, qui puissent vraiment influencer pour que ce dialogue ait lieu. Nous pensons que c'est le seul chemin pour la paix et la sécurité dans notre région et pour l'unité du Congo.
Voilà des propos recueillis par Christian Lozambé. Monseigneur Willy Goumbi, l'évêque de Goma en RDC, était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican. Merci de votre fidélité. L'information revient en direct de Rome tout à l'heure à 13h. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.